Aristote se consacre aujourd'hui au monde grec durant l'époque même où celui-ci connaît son extension maximale puisqu'il devient désormais le maître de l'Égypte, la Syrie, la Mésopotamie, les plateaux iraniens et l'Asie centrale aux portes de l'Inde. Cet apogée de la Grèce que l'on dénomme hellénistique, celle-là même qui débute en 336 avant notre ère, est bien entendu liée à la conquête d'Alexandre, mais semble curieusement négligée par les historiens. Pourtant, les sources épigraphiques sont nombreuses, avec bien entendu Polybe, le grand historien du IIe siècle avant notre ère, mais aussi une myriade de papyrus, souvent bien conservés sous le climat égyptien. Parallèlement, c'est désormais surtout l'archéologie qui livre d'importantes informations. Ainsi, elle constitue la seule source, notamment pour l'Orient grec, c'est-à-dire les royaumes gréco-bactriens. Pour en parler, une invitée, Catherine Grandjean, bonjour.
Bonjour.
Professeure d'histoire grecque à l'Université de Tours, mais aussi numismate, co-directrice de la revue Numismatique, vous venez surtout de diriger une somme de 815 pages consacrée à notre sujet et intitulée « D'Alexandre à Hadrien, la Grèce hellénistique et romaine » publiée dans la collection Mondes anciens aux éditions Belin. Catherine Grandjean, qu'est-ce que la Grèce hellénistique et pourquoi semble-t-elle négligée par les historiens ?
Alors l'époque hellénistique s'étend entre le règne d'Alexandre le Grand et la disparition du royaume grec d'Égypte, celui de Cléopâtre VII, la Cléopâtre de César et d'Antoine, en 30 avant notre ère. Donc c'est une période qui couvre 4 siècles et qui porte sur l'histoire des royaumes grecs issus de la conquête d'Alexandre, qui s'étendait donc, vous venez de le dire, de l'Égypte à l'Afghanistan, sur 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 6 fois la France. Le choix de l'adjectif hellénistique, qui signifie « celui qui parle grec », par l'historien allemand Johann Droysen, rend bien compte de la spécificité de cette période où si les rois étaient des Grecs, originaires de Macédoine, comme Alexandre le Grand, la majorité de leurs sujets n'étaient pas des Grecs. Pendant longtemps, les historiens se sont désintéressés de cette période au profit de l'époque de référence de l'histoire grecque, la période classique,
les 5e,
bien sûr, les 5e et 4e siècles qui correspondent à l'âge d'or de la démocratie athénienne, avec l'Acropole, le théâtre tragique, Hérodote, Thucydide, Platon, Aristote. Et le naufrage de la littérature d'époque hellénistique et aussi le regard très négatif porté par les Romains sur les successeurs d'Alexandre explique le long désintérêt des historiens pour cette période, en tout cas tant qu'ils n'ont disposé que des textes littéraires issus de la transmission manuscrite. Au XIXe siècle, les choses ont changé grâce au développement de l'archéologie scientifique, les découvertes de l'archéologie, notamment de la ville de Pergame, l'archéologie sous-marine aussi, qui a donné à voir beaucoup de matériel, amphorique, céramique et autres. Et puis, les découvertes d'inscriptions des cités grecques qui ont été étudiées notamment par Louis Robert, Philippe Gautier ou Jean-Louis Ferrari et bien d'autres, ont complètement renouvelé le regard des historiens sur cette période qui est désormais une des plus étudiées de l'histoire grecque.
Et oui, on a un papyrologue au Collège de France.
Absolument.
D'ailleurs. Vous parlez de naufrage littéraire pour cette période hellénistique. On a quand même quelques auteurs, Polybe en tête,
bien sûr,
importants.
Bien sûr.
On a aussi toute une série de géographes, et nous parlions avant l'émission, j'en parlais,
d'Achille de Cnide,
qui est un de mes grands auteurs. Ouais, ouais. Favori, il y a quand même beaucoup de choses qui caractérisent
cette période. Mais il y a beaucoup de choses fragmentaires. Si on regarde le théâtre, par exemple, on a Ménandre, mais beaucoup d'auteurs ont disparu. Polybe, on ne l'a pas en entier. On a des citations chez des auteurs postérieurs, comme Tite-Live. Donc c'est une période quand même pour laquelle la documentation textuelle reste très fragmentaire. On arrive à mettre en série la documentation archéologique beaucoup plus facilement que la documentation littéraire.
Catherine Grandjean, si les historiens ont choisi 336 avant notre ère pour y voir la fin de la Grèce classique au profit bien sûr de la Grèce hellénistique, c'est que cette année-là est probablement un véritable tournant ?
Oui, c'est l'assassinat de Philippe II, le père d'Alexandre, par un aristocrate de son entourage, Pausanias, l'Orestite, de haute Macédoine, et c'est le début du règne d'Alexandre. Alors parfois, on fait commencer cette période hellénistique en 323, à la mort d'Alexandre, mais nous avons choisi, les quatre auteurs de l'ouvrage, de commencer en 336, au début du règne d'Alexandre, pour mieux comprendre les problématiques de la période qui suit en fait sa mort, notamment celle qui voit les proches d'Alexandre, leur fils, se disputer pendant 40 ans sa succession. C'est la période qui aboutit à la création des royaumes hellénistiques.
Hormis Sparte, Alexandre III, dit bien sûr Alexandre le Grand, a une armée macédonienne coalisée qui va lui permettre donc de partir à la conquête du monde, parce que c'est une véritable conquête du monde.
Oui, c'est quelque chose d'absolument étonnant, parce que on estime l'armée en fait d'Alexandre à moins de 40 000 hommes, dont un certain nombre de Grecs de Grèce méridionale, des cités qui étaient obligées de fournir des contingents alliés à la Macédoine depuis Philippe. Et puis on voit cette conquête qui se met en route et qui finalement, entre 334 et 325, arrive à conquérir cet immense empire, Égypte comprise, avec une armée qui se transforme peu à peu, avec de plus en plus de combattants finalement anatoliens, syriens, iraniens, à mesure que les Macédoniens et les Grecs du sud, les Grecs alliés, meurent ou sont épuisés. Alors on les laisse dans des fondations de villes, des garnisons, et on voit le caractère de l'armée qui change. Mais c'est une véritable épopée que cette conquête, et les Grecs et ensuite les Romains, et jusqu'à une époque assez récente, ne s'y sont pas trompés. C'est le conquérant absolu.
Il va bien sûr jusqu'en Inde, oui. Combattre donc contre des éléphants d'ailleurs qu'il intègre dans sa propre armée. Ce sera le premier, je crois, à intégrer des éléphants dans des armées occidentales.
Oui. Absolument.
Bien avant Hannibal.
Voilà, bien avant Hannibal. C'est-à-dire qu'il rencontre, en fait, c'est des combats très difficiles, qui sont livrés vraiment à la fin de la conquête. Ils dépassent même les limites de l'Empire perse achéménide vers l'Est. Et sur l'Indus, il rencontre ce roi, bon, qui lui pose énormément de difficultés, Poros. Et l'armée de Poros, avec ses éléphants d'Asie, impose pose de grosses difficultés à l'armée d'Alexandre. Il y a énormément, les combats sont très sanglants. Et ensuite, Alexandre et ses successeurs adoptent ces éléphants qu'on voit avec Hannibal, mais qu'on voit aussi avec Pyrrhos à partir de 280. Et les Romains qui voient arriver ces éléphants de guerre sont aussi terrifiés et dominés par l'armée de Pyrrhos.
Et puis après, ce sera donc un long retour par terre jusqu'à Babylone, et puis bien sûr par mer avec Néarque. Il faut absolument lire le texte d'Arien, l'Anabase, qui est absolument extraordinaire. Toutes ces conquêtes suscitent bien sûr maintes batailles. On connaît au travers d'une mosaïque d'exceptions mise au jour dans la maison du Faune à Pompéi la victoire d'Alexandre et de Bucéphale étant bien sûr son cheval, sur les Perses de Darius en 333. C'est une mosaïque extraordinaire.
Alors c'est une mosaïque apparemment, bon, elle est actuellement conservée au musée de Naples.
Elle est un peu tardive, mais elle est...
Oui, elle est du deuxième avant, probablement, et elle a été importée, comme beaucoup d'œuvres hellénistiques, en Italie, à Rome, et là, à Pompéi. Et elle représente une bataille, en effet, avec un face-à-face entre Alexandre, à cheval, c'est le roi cavalier, et puis Darius III Codoman, le grand roi perse. Alors, il y a beaucoup de débats sur la nature de la bataille en question. Est-ce qu'il y a véritablement une bataille concernée? Est-ce que c'est le granit, Kissos, Gaugamel? Ça peut être pas mal d'affrontements entre le roi de Macédoine et puis Darius. Ce qui est important, c'est finalement le duel qui apparaît entre les deux hommes. Et évidemment, le Perse se dérobe et s'enfuit. Il est sur son char, alors que la posture d'Alexandre est parfaitement conquérante.
Avec les cheveux en
arrière.
En arrière,
l'œil exophtalmé,
assez Très très belle mosaïque. Oui. Bien sûr, avec la conquête, avec cette vaste conquête, ce sera la naissance de nombreuses villes. Pour en parler, peut-être les plus lointaines, celle de Bactre, récemment découverte par les archéologues français en Afghanistan. Celle aussi, par exemple, d'Eiranoum, fouillée dans les années 60 par Paul Bernard.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on sait par Plutarque et d'autres auteurs que Alexandre n'a pas fondé qu'Alexandrie d'Égypte, qui est la plus connue de ses fondations. Il y a eu beaucoup d'Alexandrie. On parle de 70 fondations de villes par le conquérant, donc qui étaient peuplées à mesure de son avancée avec des combattants fatigués. Parmi elles, Kandahar, Herat en Afghanistan et bien d'autres. Et puis donc, on connaît particulièrement bien en France Aïkanoum, fondé probablement par Alexandre, mais sur un établissement plus ancien et surtout renforcé à l'époque des Séleucides, ses successeurs dans cette partie en fait de l'Empire, hein, l'essentiel de l'ancien Empire achéménide. Et donc, par les fouilles de la DAFA, la délégation archéologique française en Afghanistan. Et c'est une ville tout à fait extraordinaire, c'est une fouille absolument extraordinaire, malheureusement probablement maintenant complètement détruite, c'est ce que disait déjà Paul Bernard, hein, à l'occasion depuis 1978-79, et puis maintenant n'en parlons pas.
Oui, par les Russes, c'était
par les Russes et ensuite les talibans. Voilà. Et ce qui est extraordinaire dans cette ville, c'est ce mélange en fait de traditions grecques et iraniennes. Dans l'architecture, on a des bâtiments typiquement grecs, un théâtre qui était très vaste, hein, c'est un tiers à peu près de la taille de celui d'Épidaure ou de celui de Pergame, qui sont parmi les plus vastes du monde grec, un gymnase, bâtiment essentiel, également typique du monde grec. Et puis, à côté de ça, des sanctuaires qui sont des sanctuaires, le palais également des rois de Bactriane, qui sont sur un modèle qui est un modèle iranien, finalement, et un mélange, notamment dans le domaine religieux, entre des traditions grecques et des traditions tout à fait iraniennes. Et puis, cette découverte fabuleuse, hein, de textes grecs, d'inscriptions, et de probablement également d'un fragment de manuscrit qu'on peut peut-être, enfin d'un papyrus qu'on peut probablement attribuer à Aristote, ce serait un traité, un dialogue d'Aristote.
Sur les choses, c'est ça.
Sur les choses, voilà. Des maximes delphiques, gravées donc en grec, sur pierre. Et puis cette merveilleuse dédicace de Cléarque, le philosophe aristotélicien, qui était féru de voyages en Orient. Je donne la traduction de Louis Robert, si vous m'y autorisez. « Étant enfant, devient bien élevé. » Jeune homme, maître de toi-même, au milieu de ta vie, juste, vieillard de bons conseils, à ta mort, sans chagrin. C'est un texte admirable.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Une version arabe du roman d'Alexandre, récemment découverte à Tombouctou, décrit le roi comme le bicornu, celui qui tient les cornes de l'Orient et de l'Occident. Bien sûr, c'est Alexandre. Pour autant, y a-t-il pour vous, Catherine Grandjean, une fusion entre les deux mondes ?
On sait que à partir du 3e siècle de notre ère, on commençait à fleurir des tas de traditions concernant Alexandre. C'est le roman d'Alexandre et toutes ses variantes dans le monde occidental, également dans le monde arabe, bien sûr, en Afrique. Alors ce personnage cornu... Peut-être fait-il allusion aux représentations d'Alexandre sous le visage un peu de l'apparence d'Héraclès sur ses monnaies, avec des petites cornes qui rappellent l'oracle de Zeus Amon à Chiwa, en Libye actuelle, qui avait consulté le roi en 332, qui lui avait dit « tu es fils de Zeus ». Peut-être, c'est une possibilité. Mais quand vous parlez de fusion, évidemment, ça m'évoque les théories de Droysen, hein, le fondateur, l'historien dont j'ai déjà parlé au début de l'émission, qui crée véritablement ce concept de période hellénistique et aux yeux duquel, finalement, la conquête d'Alexandre avait entraîné une diffusion de l'hellénisme partout, jusqu'en Afghanistan. Et avec une rencontre particulièrement fructueuse avec les cultures orientales et notamment le judaïsme qui, selon lui, avait provoqué la naissance du christianisme. Alors, ce sont des idées un peu colonialistes, hein, disons-le, qui maintenant ont disparu largement, en fait, de nos tablettes, d'autant que les recherches qui sont menées dans différents domaines montrent qu'il n'y a pas eu de volonté d'Alexandre et de ses successeurs grecs d'imposer un modèle culturel. Ce qui est certain,
c'est... Il n'y a pas d'hellénisation.
Alors, c'est des concepts assez compliqués, c'est comme la romanisation, c'est des concepts qui sont très discutés. Il est clair que les élites locales devaient apprendre le grec quand ils voulaient faire une carrière dans la haute administration. Ça, c'est clair. En revanche, on voit que dans l'administration locale, par exemple, en Égypte, pour laquelle on a beaucoup d'informations, tout se passait en démotique. Il n'y a pas véritablement dans l'ensemble en fait des populations soumises une diffusion du grec aussi forte. Et puis on insiste de plus en plus sur l'importance des transferts culturels, c'est-à-dire qu'il y a des influences réciproques dans le domaine religieux. Ça, on le savait depuis très longtemps, avec l'adoption par les Grecs, y compris en Grèce continentale, de certains cultes orientaux, ou en tout cas leur diffusion de plus en plus importante, comme le culte d'Isis, qui est attesté depuis fort longtemps, mais d'autres également. Mais on voit des phénomènes qui se font jour. Par exemple, en Égypte, il y a des témoignages qui donnent à penser que des soldats, qui étaient des soldats macédoniens, ont cessé, disons, d'abandonner, d'exposer leurs enfants nouveau-nés quand il s'agissait de filles. L'exposition des enfants était quelque chose de parfaitement inconnu des Égyptiens, est extrêmement courante en Grèce. Quand un père refuse.
L'exposition, c'est l'abandon.
C'est l'abandon. Hein. C'est-à-dire soit la mort, soit le fait de l'abandon à un marchand d'esclaves, enfin au hasard des choses. Et on voit que ces pratiques s'estompent à mesure que le temps passe en Égypte, dans ces milieux de combattants grecs. Il y a beaucoup d'autres domaines aussi où on voit une résistance à la culture grecque. Alors, pour l'Égypte, on a beaucoup de témoignages, notamment dans le clergé égyptien. À l'origine,
d'Amon, par exemple.
Voilà, le clergé, bon, dans un premier temps, est tout à fait favorable au Ptolémée, hein, au souverain grec, qui lui conserve des privilèges, notamment fiscaux, des privilèges financiers importants. Mais on voit se développer aussi une opposition. À la domination des Grecs. Et puis, évidemment, il y a les Juifs. Il y a les Juifs avec, à partir du IIe siècle, la révolte des Maccabées, très, très hostile au souverain Séleucide Antiochos IV, qui veut transformer le temple en sanctuaire de Zeus. Et puis, la création du royaume asmonéen. C'est-à-dire que cette hellénisation, bon, on peut lui mettre des guillemets.
Alexandre meurt en 323 à Babylone, à l'âge de 32 ans. Nous savons par Suétone que bien plus tard, Octave fit ouvrir le tombeau d'Alexandre. Ce tombeau jamais retrouvé est une obsession pour certains archéologues grecs, et certains clament d'ailleurs régulièrement l'avoir trouvé alors qu'il n'en est rien.
Non, absolument.
C'est une obsession.
C'est une obsession. Alors on a un texte en fait de Strabon, donc un texte très postérieur à la mort d'Alexandre en 323, qui dit que le lieu qu'on appelle le soma, alors le soma en grec, ça veut dire le corps, et ça indique en fait le lieu où aurait été enterrée la momie d'Alexandre, le soma, fait partie des palais à Alexandrie, et que c'est une enceinte où reposent Alexandre et les rois. Voilà. Alors ça, c'est du solide, hein, c'est Strabon dans la géographie. Alors, ce qu'on sait par ailleurs, c'est que le roi a été momifié, ce qui n'est pas du tout une pratique grecque, hein, on pratiquait plutôt l'incinération, et ensuite on plaçait dans un vase précieux ou une boîte précieuse en orfèvrerie les cendres dans un linge, voilà, et ensuite on l'enterrait, voilà, on enterrait l'ensemble dans un hypogée. Mais pendant 2 ans, donc, il y a des préparatifs, il y a un convoi qui est censé ramener la dépouille du roi de Babylone, où il est mort, jusqu'en Macédoine. Et puis, il y a un détournement.
Alors,
par Ptolémée, absolument. Et donc, il est d'abord sans doute placé à Memphis, Et puis, une fois qu'Alexandrie, qui a été juste fondée par Alexandre, mais est beaucoup plus, que la ville prend forme, le roi est ensuite enterré vers 280 à Alexandrie. Et donc, c'est un mystère que le devenir de cette dépouille. Alors, il y a peut-être deux choses qui sont amusantes. Vous avez parlé de la visite d'Octave et de ce texte très célèbre de Suétone où il est dit que il a voulu voir Alexandre, et que on lui a proposé de voir les dépouilles des Ptolémées qui lui avaient été associés dans le même monument, qu'il a refusé parce qu'il voulait voir le conquérant et pas des morts. Et ça traduit bien le dédain des Romains pour les souverains hellénistiques. César l'a vu, Caligula, Adrien, Caracalla. Et puis les derniers moments où probablement la dépouille est attestée, le soma, c'est la fin du IVe siècle, où dans un contexte après donc de notre ère, où dans le contexte de la montée en puissance avec beaucoup d'autorité du christianisme, même à Alexandrie, il est possible que le corps, la dépouille, ait été exposé pour la dernière fois en 391 de notre ère. Alors, qu'est devenu la momie d'Alexandre ? Alors, il faut quand même dire quelques mots de la thèse d'Andrew Shugue, qui est un archéologue anglais pour lequel la dépouille finalement serait à Saint-Marc de Venise, puisqu'il note que les dernières attestations de l'existence de la momie d'Alexandre, c'est fin IVe. Or, la momie de Saint-Marc, martyrisée à Alexandrie, apparaît à partir du IVe siècle. Donc pour lui, il y a une substitution entre les deux. Et puis, donc, il y a cet archéologue grec, pour ne parler que d'elle, parce que c'est la plus célèbre, Calliope Limnaeus Papacosta, qui mène des recherches actives depuis très longtemps à Alexandrie. Mais il y a aussi des recherches en Macédoine, donc pour essayer de retrouver...
Objet de fantasme.
Voilà, mais c'est une énigme archéologique passionnante et qui restera probablement longtemps une énigme.
La mort d'Alexandre entraîne la dislocation de l'Empire et la naissance de royaumes. Nous voici devant les dynasties Lagides, fondées par les Ptolémées, les Séleucides, enfin les Antigonides. En tout cas, Catherine Grandjean, la fondation de villes semble le modèle de la cité grecque, se poursuit après Alexandre ?
Oui, c'est-à-dire que les successeurs d'Alexandre, notamment les Séleucides, qui avaient hérité de cet immense domaine qui s'étendait de l'Anatolie jusqu'à l'Afghanistan, pour marquer leur territoire, ont créé un très grand nombre de villes. Alors certaines étaient toutes petites, c'était juste des postes où étaient implantés des garnisaires, d'autres un peu plus grandes pour l'administration régionale, locale, qui mélangeait souvent peuplement grec et peuplement local, autochtone, et puis des villes plus importantes. Alors en Syrie du Nord, par exemple, le cœur du domaine séleucide, c'est pas l'Iran, comme c'était le cas à l'époque des Perses. C'est vraiment une zone qui chevauche le sud-est de la Turquie actuelle et la Syrie du Nord, avec Antioche, qui désormais c'est Antakya en Turquie orientale. C'est le site du Tigre également, qui est une fondation très importante, et un peu partout des villes qui, comme la fondation de Ptolémaïs en Égypte par les Ptolémées, près de Thèbes, donc la capitale de la Haute Égypte pharaonique, pour les plus grandes fondations, elles jouxtent souvent des villes importantes du passé, Babylone par exemple, et pour ces aussi du Tigre également. Et puis Alexandrie, qui est une fondation certes d'Alexandre, mais qui doit son existence et son importance aux deux premiers Ptolémées.
Ces nouvelles dynasties ont largement diffusé le portrait d'Alexandre dans leurs propres émissions de monnaie. Or, justement, Catherine Grandjean, vous êtes numismate et avez étudié des monnaies de la Bibliothèque nationale de France pour connaître l'origine de l'argent sur ces monnaies.
Oui, alors en fait, nous avons à la Bibliothèque nationale de France la première collection de monnaie grecque au monde, par sa richesse, son importance. C'est en fait la collection héritée de celle des rois de France, des dations de collections privées, et puis les mandats exercés par la France au Liban, en Syrie, après la Première Guerre mondiale, ont été également extrêmement fertiles en découvertes numismatiques. Et nous avons la chance aussi de posséder un laboratoire d'archéométrie qui est tout à fait extraordinaire. C'est le centre Ernest Bablon. Voilà, à Orléans, qui fait partie de l'IRAMAT, hein, l'Institut de Recherche sur les Archéomatériaux, une UMR multisite. Et c'est Jean-Noël Barandon, donc, qui était un spécialiste de physique nucléaire, qui a eu l'idée d'appliquer en fait des technologies donc de physique nucléaire à l'analyse des monnaies, de façon à éviter la destruction, conformément à la législation française, hein, à la destruction du matériel.
Quels sont les résultats?
Alors les résultats, donc actuellement on utilise plutôt des lasers, hein, pour pénétrer suffisamment dans les monnaies sans que les traces soient visibles à l'œil nu. Alors ces programmes de recherche, on a eu plusieurs, ont montré dans les monnaies frappées à l'époque hellénistique beaucoup de métaux précieux d'origine achéménide. On arrive à tracer notamment par des éléments qu'on appelle les éléments traces, qui sont des mineurs en fait, des alliages d'or et d'argent.
Donc de l'argent perse.
Oui, voilà, de l'argent perse, de l'or perse. Et c'est extrêmement intéressant. On arrive en fait à voir quand cet apport, disons, diminue au profit des ressources locales, notamment des mines de Grèce du Nord.
Quel est l'héritage de cette période? Avant tout, Alexandre, descendant d'Achille et disciple d'Aristote, repoussant les limites du monde connu au travers d'un roman d'Alexandre, sorte de best-seller aux quatre coins du monde?
Il est sûr que la personnalité la plus connue, la plus illustre de la période, c'est Alexandre. Alors vous me permettrez aussi d'y ajouter Cléopâtre, même si elle est connue plutôt en mauvaise part, hein, par la propagande romaine, mais c'était un souverain de très grande classe, hein, qui a essayé véritablement de reconstituer l'empire d'Alexandre. L'Égide. Absolument, et même au-delà, hein, l'empire d'Alexandre. Alors l'héritage, il est d'une richesse extraordinaire. Nous n'aurions pas les textes probablement d'Homère et les textes de la période classique sans l'apport extraordinaire des intellectuels de l'époque hellénistique qui les ont mis en forme au musée d'Alexandrie, à la bibliothèque d'Alexandrie. Sur un plan culturel, l'apport est absolument fabuleux. La géographie, la représentation du monde aussi a complètement évolué. Et finalement, l'image du monde qui était celle des Grecs et puis des Romains, je pense à l'époque de Claude Ptolémée, hein, qui vivait à l'époque impériale, elle n'a pas bougé avant les grandes découvertes. Elle a influencé fortement les découvreurs dès l'époque moderne et elle est restée vraiment prégnante à l'époque médiévale.
Et puis, bien sûr, la Grèce hellénistique, c'est le Colosse de Rhodes, le phare d'Alexandrie, et c'est la victoire aussi de Samothrace, sans oublier quelques penseurs, Aristote, Démosthène, Théophraste, Zénon, qui est bien sûr un stoïcien, Archimède et Polybe. Catherine Grandjean, merci beaucoup. Je rappelle
merci
le titre de l'ouvrage que vous venez de diriger dans la collection Mondes Anciens aux éditions Belin, d'Alexandre à Adrien, la Grèce hellénistique et romaine, publié aux éditions Belin. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Valentin Bobinet, bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.